En Ile-de-France, vous écoutez IDFM, la plus francilienne des radios.
Bonjour à tous, Jacqueline Voraz au micro de Radio IDFM avec Francky à la technique. Bonjour Francky. Bienvenue, excellente journée à vous tous qui nous écoutez ce matin, mardi 23 mai, sur IDFM Radio, la radio valdoisienne, en FM sur 98.00, web radio sur 98.fr, en DAB+, sur toute l'Île-de-France et dans le monde entier grâce à notre appli mobile. Développement durable, transition énergétique, des enjeux devenus incontournables face à l'urgence climatique. Un sujet qui nous concerne tous et qu'une nouvelle fois dans l'économie en direct, nous allons décrypter avec mes invités. Bonjour Stéphane Beaupère.
Bonjour.
C'est toujours un plaisir de vous accueillir dans notre studio, sur le fil aujourd'hui, vous êtes là.
Sur le fil, mais je suis là, c'est un plaisir de venir également.
Merci Stéphane. Ingénieur, aujourd'hui conseiller en développement industriel à la Chambre de commerce et d'industrie Paris-Île-de-France, après 20 ans d'expérience dans la direction de projets industriels automobiles, avec nous ce matin pour nous présenter les journées du développement durable de la Chambre de commerce et d'industrie du Val-d'Oise, qui auront lieu le 15 juin sous format d'atelier participatif, la convention de la sous-traitance industrielle de la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise, mais pas que, puisque vous participerez aussi à un événement prévu organisé demain 24 mai sous la houlette de la communauté d'agglomération Valparaisis. À vos côtés, Emmanuel Froideval. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Jacqueline.
Ravi de vous recevoir à l'antenne de Radio IDFM.
Eh bien de même, merci beaucoup de m'avoir invité.
Je vous en prie. Emmanuel, vous êtes chargé de l'immobilier d'entreprise pour la communauté d'agglomération Valparaisis.
Oui, tout à fait.
Et à ce titre, présent pour nous détailler l'événement dont je viens de parler et qui se tiendra demain 24 mai à Taverny, théâtre Madeleine Renaud, 6 rue du Chemin Vert de Boissy. Il s'agit du salon professionnel destiné à accompagner les entreprises dans leur transition énergétique, plus particulièrement au niveau de l'immobilier d'entreprise, un vaste sujet qui mérite toute notre attention. Et à vos côtés, David Buffo. Bonjour David.
Bonjour Jacqueline.
Merci d'avoir accepté mon invitation.
Avec plaisir.
David Buffo, vous êtes hypnothérapeute, conseiller municipal à Enghien-les-Bains, liste Enghien en transition, mais aussi cofondateur de l'association Semeurs de Forêt, une association d'intérêt général dont nous parlons régulièrement dans cette émission et que nous avons hâte de mieux connaître à travers votre témoignage. Merci. Bienvenue et merci à chacun d'être les invités en direct de l'économie en direct. Avant de vous donner la parole, avec nous aussi dans le studio, notre expert de notre instant saveur et qui chaque mardi nous donne des recettes originales et délicieuses. Bonjour Bruno.
Bonjour Jacqueline, bonjour à toutes et à tous.
Merci d'être au rendez-vous de ce moment gourmand.
C'est toujours un plaisir, vous savez bien.
C'est vrai, écoutez, partagez, vous le savez aussi. Alors Bruno, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va manger?
Bah, vous savez quoi, Jacqueline? J'ai trop hâte.
Ah oui.
Tous les ans, c'est la même chose. Ils se font désirer et enfin, ils arrivent. Alors oui, j'ai hâte de les déguster. De quoi je parle? Mais des légumes de printemps, bien sûr. Ils arrivent sur les marchés, enfin presque, ils ne sont pas encore tous là, mais ça va pas tarder. C'est juste une petite question de temps. Et parmi ces légumes, moi j'ai un petit et même un gros faible pour le petit pois. Mais qu'est-ce que c'est bon? Tous les ans, je m'en régale. Je n'en ai pas encore vu sur le marché d'Enghien, mais peut-être que j'ai mal vu. On m'a dit qu'il y en avait sur d'autres marchés. Mais bon, moi, j'aime tellement ça que je m'en achète plusieurs kilos à la saison des petits pois. Je les écosse et j'en fais des petits sacs de 200 grammes chacun. que je congèle. Ça se garde très bien et comme ça, j'en profite toute l'année. Et ce week-end, j'ai terminé ceux de l'an dernier. Je vais donc pouvoir les remplacer par ceux qui arrivent. Et je peux vous dire que je me suis fait un petit plaisir que je vous propose à votre tour de déguster. On va faire une nage de moule avec une crème de petits pois. C'est un régal. On va faire cette recette pour 6 personnes. Pour la préparation des moules, il vous faut naturellement 500 g de moules de bouchot nettoyés, un oignon, une branche de thym, 25 centilitres de vin blanc sec, de l'huile d'olive et du poivre. Et pour la crème, vous avez besoin de 2 kg de petits pois pour obtenir à peu près 800 g écossais, 50 centilitres de bouillon de volaille, un oignon, 2 cuillères à soupe de crème fraîche épaisse, 25 g de beurre, du sel et du poivre. On va commencer par s'occuper des moules. Vous épluchez et émincez finement l'oignon. Dans une grande cocotte, vous le faites suer à feu doux dans un peu d'huile d'olive pendant 5 minutes à peu près. Vous ajoutez les moules, le vin blanc, le thym et vous poivrez. Vous couvrez la cocotte et laissez les moules s'ouvrir en remuant de temps en temps. Une fois que c'est fait, vous les sortez, vous les réservez et vous filtrez le jus de cuisson que vous réservez également. Pour la crème de petits pois, vous pelez l'oignon et vous le hachez. Vous faites fondre le beurre dans la cocotte et vous y mettez l'oignon à revenir en remuant jusqu'à ce qu'il soit bien blond. Vous ajoutez les petits pois et vous faites en sorte qu'ils soient bien enrobés de beurre. Puis vous mouillez avec le jus des moules et le bouillon. Vous portez à ébullition et vous faites cuire pendant 25 minutes. À ce moment-là, vous mixez bien la soupe. Le but, c'est qu'elle soit le plus lisse possible. Vous la remettez ensuite sur feu doux. Vous pouvez ajouter alors la crème fraîche et au premier bouillon, vous retirez la cocotte du feu. Naturellement, vous goûtez et assaisonnez si nécessaire. Vous plongez les moules dans la crème de petits pois pour les réchauffer et vous répartissez dans des assiettes creuses. Alors là, je me permets de vous donner un petit conseil. Décortiquez les moules avant de les mettre dans la crème, sinon vous allez passer votre temps avec les doigts dans la soupe au moment de les manger, ce qui n'est pas forcément très agréable. Toutefois, rien ne vous empêche d'en garder quelques-unes dans leur coquille pour le décor. Cette recette, je vous l'ai dit, c'est une véritable pépite. Moi, je l'ai faite ce week-end mais en plat, mais vous pouvez parfaitement aussi l'adapter en entrée. Voilà en tout cas une jolie idée que je trouve originale, légère. C'est aussi une autre façon de travailler les petits pois. Et puis, je crois que vous avez un invité qui est végétarien, donc ça fera son bonheur. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Jacqueline, mais quelque chose me dit que ça pourrait vous plaire. En tout cas, j'ai hâte de les retrouver sur les marchés au milieu de tous les autres légumes de printemps. Je vous souhaite une bonne cuisine, un bon appétit. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.
Merci Bruno. Oui, c'est un vrai régal. Je crois que mes invités ont l'air de vraiment approuver votre recette.
Eh ben, alors, tant mieux.
Et je voulais dire justement à l'attention de mes invités que vous êtes un fervent défenseur du circuit court. Hein.
Donc, ah oui,
puisqu'on va parler de transition.
Oui.
Absolument.
Ah oui, ça c'est
non,
la
ben,
clé.
C'est une superbe recette.
Respecter les saisons, voilà, c'est les petits légumes de printemps qui arrivent et c'est toujours magnifique à déguster.
Le seul problème, c'est que maintenant on a faim, donc il va falloir attendre.
Ben, j'ai rien pour vous là.
Bonne Merci émission. Bruno.
Au revoir.
On se voit la semaine prochaine.
Évidemment.
Merci Bruno.
Au revoir.
À la semaine prochaine. Au revoir.
Partout en Île-de-France, écoutez les programmes d'IDFM sur 98FM.
IDFM Radio, c'est l'économie en direct. Et ce matin, développement durable et transition énergétique sont les thèmes de notre émission. Pour en parler autour de la table, Stéphane Beaupère, ingénieur, conseiller en développement industriel à la Chambre de commerce et d'industrie Paris-Île-de-France, avec nous ce matin pour nous présenter les prochains événements de la CCI du Val d'Oise. Emmanuel Froideval, chargé de l'immobilier d'entreprise pour la communauté d'agglomération Valparaisis, qui organise demain à Taverny un salon professionnel dont c'est la deuxième édition. David Buffo, hypnothérapeute, conseiller municipal à Enghien-les-Bains, liste Enghien en transition, cofondateur de l'association Semeur de forêt. Stéphane Beaupère, on commence avec vous.
Avec plaisir.
Alors, management d'entreprises industrielles, gestion de la R&D, de l'innovation, création de valeurs et plans stratégiques, ce sont vos compétences, Stéphane.
Exactement, c'est des compétences que j'ai mobilisées pendant une vingtaine d'années au service de l'industrie automobile. Aujourd'hui, je les mobilise pour les PME, TPE du Val-d'Oise et également de la Seine-Saint-Denis. Et puis, ça prend une tournure tout à fait nouvelle devant l'impératif climatique qui se présente à nous. Voilà, on a des thèmes nouveaux qui arrivent et cette transition énergétique, écologique est effectivement plus que d'actualité. Hein, tout le monde ressent l'urgence. Le gouvernement aujourd'hui décline tout un tas de directives qui visent à accélérer justement cette transition. Et la Chambre de commerce et d'industrie accompagne en fait la volonté du gouvernement d'accélérer les choses en proposant en fait aux entreprises tous les dispositifs qui sont mis à leur disposition pour les aider en fait à avancer dans cette transition énergétique.
C'est ça. Vous êtes devenu un expert pour œuvrer en faveur d'une excellence environnementale. Et c'est l'idée de ces journées du développement durable qui vont avoir lieu bientôt.
Tout à fait. Donc à travers les différentes actions qu'on mène, il y a les journées du développement durable qui sont un petit peu une institution, on va dire, au sein des chambres de commerce et d'industrie aujourd'hui. Et pour le Val d'Oise, nous, on va organiser un événement qui va être d'être dédié vraiment aux entreprises du coin. L'idée, c'est de pouvoir les faire participer activement, leur faire faire leur premier pas dans la transition énergétique. Donc, on va avoir un événement qui se déroule en quatre étapes. La première étape, ça va être de présenter en fait un petit peu les enjeux, hein, de rappeler les éléments de contexte, de donner quelques ordres de grandeur et puis de préciser les objectifs de l'État. Hier même, Elisabeth Borne a insisté sur le fait qu'il fallait accélérer cette décarbonation avec l'ambition d'ici 2030 de réduire de 50% les émissions de CO2, hein, en comptant CO2 seulement, mais bon, on remesure tout en équivalent CO2. Et donc, il faut les diviser par deux. Ce contexte est important en fait pour les entreprises parce que ça veut dire on a un schéma qui est assez intéressant hein, quand on représente un petit peu les compétences internationales. On voit que la Chine est très forte dans tout ce qui est industrialisation à proprement parler. Les États-Unis sont très forts en brevets, en informatique, et puis l'Europe est très forte en normes. Les normes vont s'appliquer avant tout chez nous, hein, avant de s'étendre sûrement au monde entier. Mais voilà, le contexte législatif va contraindre les entreprises de toute façon à accélérer cette décarbonation.
Donc encore faut-il que ces normes après soient appliquées.
Oui,
c'est toujours le problème.
Bien sûr, mais elles ont déjà au moins le mérite d'exister et puis d'inciter les choses. Et puis le gouvernement ne s'arrête pas aux normes, étant donné qu'on a quand même pas mal de dispositifs qui aident financièrement les entreprises à pouvoir faire leur premier pas. Donc dans ce démarrage, on va avoir plusieurs intervenants qui vont venir présenter des solutions de décarbonation. L'ADEME va contribuer en axant vraiment son discours sur la décarbonation, les outils de la décarbonation, comment on peut faire pour décarboner. On a également Enerup, qui est une start-up qui est hébergée sur les territoires de Cergy-Pontoise, qui est experte en management et en gestion de l'énergie. Donc en l'occurrence Didier Crochetet, qui est vraiment spécialiste, donc qui a une grande expérience en fait dans la maîtrise de l'énergie, et qui va venir expliquer les différentes étapes que n'importe quelle entreprise, et puis c'est valable pour les entreprises industrielles, mais pas que, donc toutes les étapes, mettre en évidence aussi les points de consommation qu'on peut surveiller, qu'on peut réduire, donc là vraiment un travail microscopique de fourmis au niveau de l'entreprise. On a Valsen, qui est une entreprise qui distribue de l'énergie et qui en produit également.
Oui, Pierre Perrault.
Exactement, Pierre Perrault. Donc c'est pas lui qui interviendra, c'est une de ses collaboratrices qui va nous parler d'autoconsommation. Donc c'est une question que les entreprises industrielles se posent beaucoup. On parle de photovoltaïque et d'autoconsommation. Il va venir nous détailler un petit peu les possibilités qu'il y a à travers cette action. cela. Et on a également GRDF, notre distributeur de gaz national principal, qui va nous parler du mix énergétique et de l'évolution, notamment du gaz naturel, dans les années qui viennent jusqu'à horizon 2050.
Donc des noms connus hein, dans cet axe de la transition énergétique.
Voilà, tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est de voir en fait comment ils ont été facilement mobilisables. Ils étaient vraiment partie prenante, hein, que ce soit l'ADEME, que ce soit GRDF, que ce soit Valsen ou NREP. Ils étaient vraiment moteurs en fait pour contribuer. Et puis, ils ont accepté de venir nous rejoindre, mais ils ont été force de proposition. On travaille quasiment toutes les semaines en fait à détailler un petit peu le programme et puis à faire en sorte en fait que cet événement effectivement soit un événement efficace pour les entreprises qui vont venir. Les PME, TPE ont souvent du mal à mobiliser du temps. Et l'idée, c'est de vraiment leur proposer une matinée qui soit très efficace pour leur permettre d'avancer sans avoir l'impression de perdre leur temps.
Stéphane, donc cette journée, elle aura lieu le 15 juin. À quel endroit?
Alors, c'est à la Turbine de Cergy, au 32 boulevard de l'Oise, si ma mémoire est bonne.
Oui. Et les horaires?
Les horaires, on va commencer à 9h, donc dès 8h30 les portes seront ouvertes, et la fin, ça va dépendre un petit peu de...
des ateliers que vous allez mettre en place.
Surtout de la fin en fait, surtout du cocktail. Nous on a mobilisé notre journée s'il faut rester plus longtemps. En fait, en fin d'événement, ce qui va se passer, on va avoir un petit cocktail pour clôturer on va dire la séance, et on tiendra des petites tables rondes pour pouvoir accueillir en fait les différentes entreprises et puis rentrer un petit peu plus dans le détail des dispositifs. Donc l'ADEME tiendra une table, GRDF, NREP, Valsen et la CCI. On parlera également d'ailleurs à cette occasion-là de l'international, parce que l'international a aussi une coloration développement durable et c'est un axe qui est en train de se développer effectivement dans la recherche de partenaires et puis la recherche de sous-traitants aussi qui peuvent être des sous-traitants internationaux. Donc voilà cet éclairage supplémentaire qui permettra aux entreprises vraiment intéressées dans ces spécialités de venir nous rencontrer et puis avoir un peu plus de détails.
Alors une question, Stéphane Beaupère, il faut s'inscrire pour participer à ces journées, comment c'est organisé?
Alors tout à fait, il y a un mailing qui a été fait là auprès des entreprises industrielles. On a aussi il y a les liens qui sont indiqués, il suffit de cliquer sur les liens, de s'enregistrer. Il y a également en fait des communications qui sont faites sur LinkedIn, où parfait, on va retrouver exactement les mêmes liens qui vont permettre de s'inscrire.
Une inscription, c'est gratuit?
Les inscriptions sont gratuites. L'idée, c'est effectivement de sensibiliser. On est vraiment dans une étape de sensibilisation. Et ensuite, effectivement, les accompagnements qu'on pourra proposer aux différentes entreprises.
Après cette journée.
Ce seront en fonction de l'accompagnement à faire. Il y a pas mal de choses gratuites, notamment, mais il y a également des choses qui sont un petit peu plus tenaces quand on va commencer à rentrer dans l'établissement de la stratégie de décarbonation de l'entreprise, où là il y a un travail un petit peu de fond à faire avec l'entreprise, et effectivement là ce sera des accompagnements payants mais subventionnés en grande partie.
Oui, parce qu'on a bien compris que la transition énergétique avait un coût et qu'il va falloir l'assurer.
C'est intéressant d'aborder cette partie économique parce que je l'avais un petit peu expliqué quand j'étais venu la dernière fois à l'antenne pour parler de la crise énergétique qu'on rencontrait. Cette crise énergétique avait mis en évidence que l'énergie était quelque chose qu'on négligeait en fait au niveau des entreprises. On la prenait comme une contrainte. Et voilà, l'idée c'est de pouvoir en faire un levier, donc de remonter en fait cet élément au plus près possible en fait des décisions de l'entreprise, parce que l'impact économique de l'énergie est important. Et puis ça tombe bien, ça va dans le bon sens de la transition énergétique. Moins on en consomme, moins ça nous coûte.
Je me souviens bien maintenant, vous aviez dit que le faible coût de l'énergie faisait que on était un peu on gaspillait énormément.
Exactement, c'est surtout le fait qu'on le regarde pas, qu'on le sent pas comme un levier, alors qu'aujourd'hui effectivement c'est quand même un moyen d'améliorer la rentabilité de l'entreprise.
Très bien. Alors, juste encore un mot sur ces journées qui aura lieu le 15 juin. Il y aura des ateliers autour de trois questions. Hein. Le but, c'est diagnostiquer, analyser et réagir.
Exactement.
Ce que vous nous avez dit.
Et on va, juste avant de lancer l'atelier, en fait, inviter trois entreprises qui vont venir témoigner, en fait, de ce qu'elles ont pu faire chez eux. Alors, trois entreprises de tailles différentes. Une start-up qui s'appelle Drive for Good. Je ne sais pas si tout le monde connaît cette entreprise. Non. Une entreprise très intéressante qui fait de la déshydratation en fait d'aliments dans un procédé complètement nouveau et qui conserve à perfection en fait les qualités nutritionnelles en fait des aliments. Donc on parlait de circuit court tout à l'heure, hein, c'est une entreprise qui s'inscrit vraiment dans les circuits courts. L'idée c'est de prendre les aliments là où ils sont et de pouvoir les traiter en fait et puis les conserver en longue durée pour des préparations alimentaires plutôt destinées à l'industrie agroalimentaire mais dans un sens très vertueux. Donc c'est une entreprise très innovante qui vient de démarrer son usine en décembre dernier et qui se retrouve confrontée, elle, dans la gestion de l'énergie de son entreprise pour vraiment être la plus vertueuse possible, à des gros problèmes d'innovation parce qu'elle a un procédé nouveau qui nécessite des moyens nouveaux pour pouvoir décarboner.
Beaucoup de recherche et développement. Et
beaucoup de R&D. Mmh. Donc ça, c'est la première entreprise. On a également Safran qui doit encore nous confirmer sa possibilité, mais qui est intéressée pour nous rejoindre, pour parler d'un système un peu plus mature, qui va nous parler de l'ISO 50001, qui est vraiment la norme qui encadre en fait le management de l'énergie au niveau des entreprises. Et une PME qui a une vingtaine d'années d'existence. Il s'agit de Framatin qui est plutôt spécialisé dans la plasturgie, plutôt dans le médical. Et son chef d'entreprise a toujours été, lui, par contre, centré sur l'économie d'énergie, et au point qu'il raisonne en fait en rentabilité du kilowattheure.
D'accord.
Donc, quand il m'a abordé pour me parler des aides potentielles en fait sur les investissements qu'il pourrait faire pour réduire sa consommation énergétique, il m'a tout de suite parlé en fait des efforts qu'il avait faits et de la rentabilité en me chiffrant en euros chaque kilowattheure en fait, enfin le chiffre d'affaires généré par kilowattheure en euros.
Très bien.
Vraiment un aspect qui est assez intéressant. Donc voilà, ça permettra en fait effectivement aux différents participants d'avoir un spectre un peu nouveau, de casser un petit peu la glace sur ce sujet-là. Et on va les accompagner sur les trois questions que vous avez dites. La première étant le diagnostic, hein, voir ce qu'il y a dans l'entreprise. La deuxième, comment analyser ce qui se passe dans l'entreprise. Et puis dans un troisième temps, voir comment on va mettre en œuvre en fait les choses pour modifier, pour améliorer en fait la situation.
Vous attendez combien de participants, Stéphane ?
Alors, on vise une trentaine de participants, mais on ne va pas fermer les portes si on en a un peu plus. Mmh. Alors, les locaux vont être relativement limités. On ne pourra pas prendre 200 entreprises, ça sera un petit peu difficile. Mais bon, si on arrive à une cinquantaine d'entreprises, on saura les accueillir.
Très bien. Je voudrais peut-être faire intervenir sur le sujet mes deux autres invités. David Buffo, si vous avez une intervention.
Oui, je voulais savoir si les autres CCI, les autres départements faisaient des événements similaires.
Alors, toutes les CCI, effectivement, de tous les départements d'Île-de-France font effectivement des événements. Alors là, je vous invite à regarder le site internet de la CCI. Je les ai pas tous en tête. Hein. Ça va. Il y a plusieurs formats. Il y a des webinaires. Il y a des interventions en présentiel aussi qui sont faites plus sous la forme de séminaires et sur des thèmes assez variés. La transition écologique est un thème. Ce n'est pas le seul qui est traité. Je vous invite à regarder. Je les connais malheureusement pas tous, tellement l'offre est large.
Est important. Emmanuel Froideval.
Donc moi, j'organise le salon des énergies renouvelables et je me dis que la prochaine édition, il faudra qu'on la travaille ensemble parce qu'on a beaucoup de points communs à travailler.
Ouais. Je pense que c'est une bonne chose de pouvoir regrouper vos forces.
Tout à fait.
Ouais. Merci Emmanuel et David Buffo. Je propose avant qu'on aborde la convention de la sous-traitance, Stéphane, qu'on fasse une pause et puis je vous redonne la parole. À tout de suite.
Elles sont énervantes, les filles d'aujourd'hui, et malheureusement j'en fais partie. Elles sont trop hésitantes, les filles d'aujourd'hui. Elles savent pas ce qu'elles veulent, elles savent pas dire Oui.
Les gens de mon temps s'enlacent, et de ce temps les gens se lassent. Soudainement tout s'efface au moment de la préface. On se rend débile d'amour un temps. On se défie sont déroutantes les filles d'aujourd'hui. Un petit tour d'amour et puis s'enfuit. Si elles suivent le vent, les filles d'aujourd'hui, sais-tu que les garçons le font aussi?
Oui.
Les gens de mon temps s'embrassent avant qu'ils ne se remplacent. Tout se détend, se détache.
Développement durable, transition énergétique, nous intéressons ce matin avec des experts dans le studio à ces deux sujets qui sont devenus incontournables. Et avec moi, Stéphane Beaupère, expert à la Chambre de commerce et d'industrie Île-de-France. Stéphane, nous venons de parler donc de cette journée du 15 juin qui va réunir encore des experts également pour traiter de ce sujet. Et vous vouliez aussi nous parler d'une convention, la convention de la sous-traitance industrielle de la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise.
Exactement. Bah, c'est une grande première pour la communauté d'agglo de Cergy-Pontoise, qui est un peu liée à l'arrivée de Dassault, qui va très prochainement en fait s'installer sur le territoire. Toutes les forces sont réunies en fait pour provoquer cette première convention de la sous-traitance. L'idée, c'est de rapprocher les grands donneurs d'ordre de tous les sous-traitants industriels qui ont intérêt à travailler ensemble, tout
bien
simplement.
Sûr. Oui, oui.
Donc, le travail n'avait jamais été fait. Alors certains se connaissent. Hein, on n'est pas non plus dans un chaos absolu. Mais l'idée, c'est de pousser un petit peu plus. En fait, on est encore un petit peu dans cet esprit de développement durable en fait avec cette convention, hein, parce que l'idée, c'est de rapprocher l'offre et la demande, de faire travailler ensemble des entreprises qui sont à proximité, éviter les transports. Dans les donneurs d'ordre qui vont être présents, on a énormément de donneurs d'ordre qui sont de l'aéronautique. Donc on parle de gros produits, de produits qui sont volumineux. Et effectivement, de raccourcir tous les chemins logistiques, c'est intéressant et ça va dans le bon sens. Donc au-delà de cet aspect de développement durable, il y a effectivement aussi l'enjeu économique, hein, de se dire, on a un territoire qui va se vitaliser par la collaboration qui peut exister entre ces différents acteurs. Donc la CACP a organisé forcément cet événement avec le club ACE, qui est le club des entreprises du Grand Cergy. avec Dynamique 95, qui est le réseau des entreprises du parc d'activités de Saint-Ouen-l'Aumône, et la CCI. Donc on a Frédéric Anfray qui va voilà une personnalité qui va intervenir et qui est très très impliqué dans ce sujet.
Et oui, je l'ai eu donc hier, excusez-moi, je coupe, mais donc Frédéric Anfray n'était pas disponible pour venir ce matin, mais il viendra pour nous en parler aussi plus en détail le 6 juin. Donc voilà, il m'a dit qu'il était un petit peu initiateur de ce projet.
Oui, complètement, même,
complètement,
on peut le dire.
D'accord. On y va alors.
Donc voilà, on a de la chance d'avoir des acteurs qui sont effectivement très très impliqués en fait dans le tissu industriel local, et ça c'est une bonne chose. Donc grâce à leur bonne volonté en fait, on peut monter des événements comme ça. On est en train de décliner tout un tas de choses. On a le CETIM qui va intervenir notamment, qui fera une conférence en parallèle des rencontres à proprement parler entre les donneurs d'ordre et les sous-traitants.
Oui, le CETIM dont la présidente est Carole Grasmuller.
Exactement. Voilà, oui. Élu de la Chambre de commerce et d'industrie. Oui. Leur intervention va permettre aussi, pendant les temps d'attente, en fait, aux différents sous-traitants d'avoir l'information en plus. Mmh. Et ça, c'est intéressant parce que le CETIM a aussi une offre très, très intéressante dans l'industrie mécanique. Nous, on le soutient notamment dans un dispositif qui s'appelle l'accompagnement Smart Industrie. Je pourrais vous en dire plus parce qu'il y a une nouvelle version qui va arriver d'ici le mois de septembre. On pense au mois de septembre que la région aura finalisé le dossier et qu'on pourra, en fait, proposer ces accompagnements à toutes les entreprises. Donc, le CETIM sera présent, la CCI forcément,
bien sûr,
qui accompagne. On essaie d'être toujours aux côtés de toutes ces initiatives industrielles.
Sur le devant de la scène pour ces questions.
Exactement. Et puis c'est un petit peu notre rôle aussi de mettre du lien, d'amener aussi les entreprises. On a quand même une bonne connaissance des entreprises aussi, et c'est faut que notre action commune soit bien coordonnée pour permettre effectivement de faire de ces événements des événements qui fonctionnent.
Oui. Ce que je voulais dire à propos de la sous-traitance, donc donneur d'ordre, sous-traitant, ça confère aux deux parties des responsabilités avec des respects d'obligations, et je pense que vous aborderez forcément ces thèmes-là.
On va commencer.
Il n'y a pas que les faits de se rencontrer.
Non, effectivement, l'idée c'est vraiment de créer des affaires, de sensibiliser aussi les sous-traitants qui sont un peu moins habitués aux grands donneurs d'ordre, aux enjeux qu'il y a de travailler en fait avec un grand donneur d'ordre. Il y a des cahiers des charges à respecter, absolument. Il y a des conventions à signer, de partenariats qui peuvent être lourdes, qui sont engageantes effectivement et qu'il faut connaître. Donc c'est la première. On va travailler un petit peu en fait. On attend beaucoup de cette première en fait pour pouvoir proposer aussi tout un programme d'accompagnement des sous-traitants, notamment sur le dossier, sur le volet achat. À la Chambre de commerce, on a déjà développé pas mal de choses, plus dans les régions qu'en Île-de-France, sur le tout ce qui est achat responsable. Et donc achat responsable, on est encore dans le développement durable, mais l'achat responsable, c'est aussi quelque chose qui est imposé aux grands groupes, aux grands donneurs d'ordre.
Donc,
ils sont sensibles. Et donc, autant savoir ce qu'attendent les donneurs d'ordre quand on est sous-traitant.
Je voudrais citer les participants. Vous avez cité Dassault, mais il y aura la Cornue, Sisley, Safran, Collins, Aerospace et Enertrag.
Exactement. Donc, trois grands noms, on va dire, de l'aéronautique. Dassault, Safran et Collins Aerospace. On a la Cornue qui est aussi un donneur d'ordre, on pourrait dire inhabituel, mais la Cornue qui fabrique des pianos de cuisson. On parlait de cuisine en tout début d'émission. Des pianos très haut de gamme.
Mondialement connus. Oui.
Qui sont mondialement connus. Ils vendent principalement aux États-Unis. Donc c'est une pépite française qui exporte, enfin qui existe depuis longtemps. Pour le coup, c'est pas une start-up, mais qui existe depuis longtemps, qui exporte énormément et qui a vraiment des produits d'exception. J'ai visité encore récemment leur entreprise. C'est splendide.
Ouais,
ça donne envie.
C'est vrai, tout le monde rêve d'avoir une Cornue.
Exactement. Ils sont en pleine croissance et ils ont besoin en fait de partenaires. Et c'est vraiment des entreprises. Enfin, toutes ces entreprises, je connais très bien Dassault. Mon père y travaillait également. J'ai une particularité sur Dassault et puis sur la Cornue également. C'est des entreprises qui cherchent des partenaires. Hein. On ne cherche pas quelqu'un pour fabriquer une pièce. Ils cherchent un partenaire avec lequel ils pourront s'engager sur du long terme. Et donc, on est vraiment dans la collaboration long terme, et c'est ça qui est visé aussi dans ce salon de la sous-traitance.
Très bien. Merci Stéphane Beaupère pour ce salon de la sous-traitance. Quelques mots maintenant pour l'autre sujet, le lancement de l'appli industrielle, déjà présenté à différentes entreprises, hein, puisque oui. Nous en avons, c'est pas la première fois qu'on en parle.
Exactement, on en a beaucoup parlé. Ça, c'est un projet qui a mis du temps à démarrer. Qui a mis du temps à trouver son modèle aussi. Hein. On était venu la dernière fois avec ma collègue Catherine Poquet pour oui. présenter la nouvelle version de cet accompagnement. Et donc cet accompagnement qui a deux dimensions, une dimension collective et une dimension individuelle. Donc on a lancé la première, qui était le premier événement collectif. L'idée de ce lancement, c'était de faire en sorte que les différents participants puissent se connaître et puissent se livrer assez facilement en fait sur les difficultés qu'ils rencontrent. L'objectif étant effectivement qu'ils en sortent grandis de cet accompagnement. Et on était extrêmement satisfait en fait de cette première parce que tout le monde a joué le jeu très rapidement en fait. Il y a eu un climat de confiance qui s'est instauré entre les différents participants. Tout le monde s'est livré assez facilement, assez longuement. Des participants qu'on sentait un peu plus timides, en fait, se sont
un petit peu lâchés.
Ils sont complètement débridés. Ils étaient même
au
très
fur et à mesure. Ouais.
Et voilà, donc une personne qui était assez pressée aussi, qui était le dernier à partir au final. Donc,
c'est toujours comme ça.
Voilà, c'est ouais. ça. C'est, donc on est vraiment 100% satisfait du premier. On a une intervenante qui nous a aidé en fait pour ce lancement, Lucie Caron, qui fait du coaching et que je connaissais dans ma vie antérieure, étant donné qu'on a travaillé dans la même entreprise, qui est spécialisée dans les ressources humaines au départ, et qui fait du coaching de chefs d'entreprise et puis de managers à travers le monde. Et elle a su en fait aborder le sujet avec toute l'humilité qu'il fallait pour que tout le monde se sente en confiance et puis qu'on puisse se livrer. Et on a des pistes de travail qui se sont dégagées et qui sont absolument merveilleuses, qui sont bien précises. Et je pense que les 6-7 mois là qui nous attendent en termes d'accompagnement vont être extrêmement fructueux pour les entreprises.
Voilà. Bon. Et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, certainement.
Ah oui, bien sûr.
Merci Stéphane Beaupère. Donc on a bien compris que votre besoin, c'est de mobiliser les industriels hein, sur l'impératif de la transition écologique et énergétique et que vous attendez beaucoup de ces journées-là, de cette journée du 15 juin.
Exactement.
Merci infiniment pour ce tour d'horizon très complet des actions futures hein, de la Chambre de commerce et d'industrie et plus spécialement de celle du 95. Toujours au taquet, hein, je vois, pour accompagner les entreprises. Très bien. Merci beaucoup Stéphane Beaupère. Un peu de musique avant de continuer. Surtout, restez avec nous pour la suite de ce nouveau numéro de l'économie en direct.
Partout en Ile-de-France, écoutez les programmes d'IDFM sur 98 FM.
SMS vient d'arriver, j'ai 18 ans. On volait ma virginité, je suis plus un enfant. L'horloge tourne, les minutes sont torrides. Et moi je rêve d'accélérer le temps. Dame, dame de haut. SMS vient d'arriver, j'ai 20 ans. On l'a fait sans se protéger, mais je veux pas d'un enfant. L'horloge tourne, les minutes infanticides, et moi je rêve de remonter le temps. Dame, dame des hauts. Oh, oh, oh. Dame, dame des hauts. Oh, oh, oh. SMS vient d'arriver, j'ai 21 ans. 9 mois se sont écoulés et toujours pas d'enfant. L'horloge tourne, les minutes se dérident, et moi je rêve, tranquille je prends mon temps. Dame, dame des hauts, oh, oh, oh. Dame, dame des hauts, oh, oh, oh. Un SMS vient d'arriver, j'ai 25 ans. Tsunami a tout emporté, même les jeux d'enfants. L'horloge tourne, les minutes sont acides, et moi je rêve que passe le mauvais temps. Dame, dame des hauts, oh, oh, oh. Dame, dame des hauts, oh, oh, oh.
suis plus un enfant. L'horloge tourne, mais son cœur se suicide. Et moi je rêve du bon vieux temps. Dame, dame, des hauts. Va arriver, j'aurai 30 ans, 30 ans de liberté, et soudain le bilan, l'horloge tourne, les minutes sont des rides, et moi je rêve d'arrêter le temps.
Restez avec nous sur EDFM Radio. Le fil rouge de notre émission ce matin, développement durable et transition énergétique, des enjeux majeurs et pour mettre en avant tout ce qui peut favoriser l'excellence environnementale. Avec moi, plusieurs experts, chacun dans leur domaine. Stéphane Beaupère, ingénieur, conseiller en développement industriel à la Chambre de commerce et d'industrie Paris-Île-de-France et qui vient nous présenter plusieurs événements à venir dans le Val-d'Oise. Emmanuel Froideval, chargé de l'immobilier d'entreprise pour la communauté d'agglomération Valparaisis, qui organise demain à Taverny un salon professionnel dont c'est la deuxième édition. Et David Buffo, hypnothérapeute, conseiller municipal à Enghien-les-Bains, liste Enghien en transition, cofondateur de l'association Semeurs de forêt. Emmanuel Froideval, alors de toute évidence, interlocuteur privilégié dans le Val-d'Oise pour tout ce qui concerne la rénovation énergétique et thermique des bâtiments. Vous vouliez intervenir tout à l'heure après l'intervention de Stéphane, mais c'est le moment. Je vous laisse juste vous présenter peut-être plus en détail, Emmanuel.
Oui, alors déjà moi je travaille sur Valparaisis, hein, pas sur le Val-d'Oise dans D'accord. son intégralité.
Ah, très bien, oui.
Je m'occupe donc d'immobilier entreprise, je m'occupe d'accompagner les entreprises qui souhaitent s'implanter sur le territoire de Valparaisis, donc qui recherchent des locaux, de les mettre en relation avec des commercialisateurs ou de leur trouver de l'immobilier entreprise disponible. Je commercialise des locaux d'activité et des terrains, donc sur le périmètre de Valparaisis. Je participe à la requalification des zones d'activité parce qu'une autre problématique qu'on trouve maintenant un peu de manière récurrente sur l'ensemble des territoires, c'est le manque de foncier. Donc il faut, dans la mesure du possible, essayer de densifier le foncier pour pouvoir construire davantage. Et puis je développe aussi des projets donc tels que les prédiagnostics thermiques qu'on a mis en place depuis 6 mois environ, et le salon de la transition écologique et des énergies positives qui aura lieu demain. Donc voilà.
Très bien. Donc, ce salon qui a lieu demain, j'ai dit que c'était la deuxième édition.
C'est la première.
C'est
en fait.
La première. Ah
oui,
bon,
désolé,
excusez-moi.
C'est la première. C'est moi qui ai dû induire en erreur. C'est la première édition. Ouais.
Bon, d'accord. Donc, vous allez pas expérimenter cette nouvelle. Donner.
Tout à fait. Alors le salon, c'est donc un salon pour les professionnels de Valparaisis et puis un peu au-delà. L'idée, c'était de réunir en un seul lieu l'ensemble des compétences pour informer, sensibiliser les entreprises qui souhaitent et qui ont la volonté de rénover leur bâtiment d'un point de vue énergétique et qui savent pas comment faire. Donc en une après-midi, parce que le salon c'est donc demain 24 mai à partir de 14h jusqu'à 20h, ils auront la possibilité de rencontrer des professionnels qui pourront les conseiller, leur donner des expertises et les accompagner s'ils le souhaitent pour aller plus loin dans la rénovation thermique de leur bâtiment. Alors le salon c'est une quarantaine d'exposants. Oui. 40 exposants qu'on a réunis, regroupés selon cette thématique différente. Alors tout d'abord, la première thématique, c'est une thématique sur l'audit et les prédiagnostics, hein, parce que c'est un petit peu la démarche, en fait, quand on veut rénover son bâtiment, on commence par auditer et voir ce qui va pas. La deuxième thématique, c'est les solutions énergétiques, tout ce qui est énergie renouvelable avec l'éolien, le photovoltaïque, mais également la géothermie. Enfin, les économies d'énergie, c'est une troisième thématique. Donc, on fait venir des start-up qui présenteront leurs solutions pour permettre aux bâtiments, enfin, aux chefs d'entreprise d'économiser leur énergie. Il y a une partie où on va regrouper l'ensemble des institutionnels, dont la Chambre de commerce ici présente, oui. Mais également Val d'Oise Rénov, également l'État qui sera présent, la région qui présentera le chèque énergie, parce que l'idée c'était de, évidemment, une des problématiques de cette rénovation thermique, c'est le coût financier, qui est très très important pour les propriétaires de bâtiments. Une cinquième thématique sera représentée par les banques et les assurances, parce qu'on a toujours besoin donc de financement pour financer ces travaux. Enfin, il y aura les entreprises de travaux et de matériaux. Et une septième thématique un peu plus générale sur je vais l'appeler la RSE. Il y aura un apiculteur, donc c'est pour un petit clin d'œil sur la transition écologique. Et puis une ressourcerie qui seront présentes pour présenter leurs solutions.
Une ressourcerie, si j'ai bien compris, dont vous vous occupez,
oui.
Vous essayez de.
Oui, alors tout à fait. Alors ça fait plusieurs mois qu'on l'accompagne pour leur trouver une solution immobilière, parce que une ressourcerie, bah, c'est très très utile, mais par contre c'est difficile à financer. Ils ont du mal à trouver un équilibre économique si on ne les appuie pas. En tout cas, ils ont besoin d'un appui très clair et très certain, en fait, de la collectivité, sinon il pourrait pas exister, quoi.
Bien sûr.
Donc, à côté de ces thématiques et de l'ensemble donc de ces partenaires, on va faire des conférences, des mini conférences, des ateliers. Il y aura 7 ateliers également. Donc le premier atelier va présenter la réglementation en vigueur, notamment le décret tertiaire, le décret BAC, parce que maintenant avec le décret tertiaire, les anciens bâtiments, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent, ont des obligations de rénovation. Enfin, les bâtiments qui font plus de 1000 m². Donc ça c'est nouveau. Dans la réglementation, on présentera les différents diagnostics thermiques, alors du pré-diagnostic thermique jusqu'au diagnostic thermique un peu plus poussé. Et on présente, il y aura donc Val d'Oise Rénov qui présentera les diagnostics thermiques, la Chambre de commerce qui sera présente, la Chambre des métiers également, et puis Solia, qui est une association financée par l'État et qui propose aux entreprises un pré-diagnostic gratuit. Pour le tertiaire privé, le petit tertiaire privé, c'est-à-dire des entreprises qui font moins de 1000 m².
Oui, un détail important, c'est ça concerne des bâtiments supérieurs à 200 m², hein, votre salon, si j'ai bien compris.
Alors, non, j'avais relevé 200 m² pour relever en fait le nombre de bâtiments qui a été créé avant 2012, c'est-à-dire avant la réglementation thermique de 2012, et puis ceux qui étaient construits après. Donc, il y avait environ 1400 bâtiments dans son intégralité, enfin, qui font plus de 200 m², mais il y en a 1100 qui ont été construits avant 2012 et environ 300 après 2012. 2012 étant une des premières réglementations thermiques qui s'applique réellement aux bâtiments tertiaires. Il y en avait déjà avant, mais disons qu'elles étaient beaucoup moins incisives. Ce qui veut dire qu'il y a tous les bâtiments qui ont été créés avant 2012 sont, on va dire, plutôt vieillissants, voire un peu obsolescents,
oui,
et nécessitent des travaux importants si
oui.
On veut les mettre un petit peu à niveau, quoi. Voilà.
D'où l'importance des budgets dont vous avez parlé.
Tout à fait, exactement. Il y aura un autre atelier sur comment prévenir les malfaçons, parce que c'est très bien de faire des travaux, mais encore faut-il que les travaux soient réalisés correctement. Mais on fait pas toujours des tests avant la mise sur le marché des bâtiments, une fois que les travaux sont réalisés. Donc ça, c'est important de savoir ce qu'il faut anticiper. Donc c'est un expert judiciaire qui viendra présenter les malfaçons qu'il retrouve généralement au niveau des bâtiments. Il y aura une présentation des entreprises qui présenteront leurs solutions d'économie d'énergie. Il y aura un fournisseur d'énergie aussi, Valsen, qui est déjà
Perrault,
présent
toujours.
Sur un autre salon au préalable, qui viendra également présenter. C'est un fournisseur d'énergie un peu atypique,
parce que
ils produisent de l'électricité pour le Val d'Oise. Je crois qu'ils ont une centaine d'années, donc c'est vraiment un fournisseur atypique. Enfin, il y aura des présentations d'EDF qui présentera les panneaux photovoltaïques. Alors c'est une branche d'EDF, évidemment, c'est pas. Ils présenteront les photovoltaïques. Il y aura le fonds chaleur qui a été de l'ADEME, qui a été sous-traité à un syndicat qui s'appelle le CIGEIF et qui présentera donc les financements possibles du fonds chaleur pour les entreprises qui veulent rénover thermiquement leurs bâtiments.
Je comprends mieux pourquoi vous avez dit hors antenne qu'il fallait absolument que vous contactiez avec la CCI pour un prochain salon, puisque vous êtes dans la même mouvance, absolument.
Oui, on est tout à fait dans la même, on va tout à fait dans la même direction. Et puis, je pense qu'il y a énormément de travail à faire. Donc, c'est important qu'on collabore et qu'on travaille ensemble.
Bien sûr.
L'impact
bien sûr.
Sera beaucoup plus important.
C'est clair. Vous vouliez nous parler aussi de l'association CIPERF.
Oui, alors tout à fait. Alors parce qu'au préalable, avant l'organisation de ce salon, on a organisé avec le CIPERF, qui est une association, c'est un peu une émanation en fait d'associations d'entreprises.
Oui. Dont
l'AIBT fait partie, qui ont créé le CIPERF pour accompagner les petites TPE, PME qui n'ont pas accès au marché public ou au marché privé, pour mutualiser en fait les réponses aux appels d'offres publics ou privés. C'est pour leur simplifier l'accès à ces marchés. Donc on est passé par le CIPERF pour réaliser 10 prédiagnostics auprès des entreprises de notre périmètre. L'idée étant de lancer ces prédiagnostics, de faire un bilan de ces diagnostics donc le bilan va être réalisé au cours du salon à 18h30, donc demain. Ils feront un petit bilan de leurs prédiagnostics, puis ils nous diront comme ça de ce que les entreprises attendent de notre part et comment on peut continuer à les accompagner après cette première action.
Oui. Alors, je pose la même question qu'à Stéphane. Est-ce qu'il faut s'inscrire pour participer à ce salon?
Alors, s'inscrire.
Oui.
Il est préférable de s'inscrire effectivement sur le site de valparaisie.fr.
Et il est encore temps,
Il est encore temps, même jusqu'à demain matin, si vous le souhaitez, vous pouvez vous inscrire. C'est totalement gratuit, mais l'inscription est obligatoire.
Très bien, oui, pour une question de sécurité probablement.
Voilà, tout simplement, et puis aussi de statistiques pour nous, pour savoir le nombre de participants, et puis pour constituer aussi une base de données pour retravailler avec les entreprises. Parce que pour nous, en tout cas, en tant qu'agglomération, ça nous permet de ces actions-là, nous permettent de mieux connaître le tissu industriel, le tissu économique de l'agglomération et travailler avec les entreprises de la zone.
On comprend à travers vos deux événements, celui de Stéphane Beaupère le 15 juin et vous demain, Emmanuel Froideval, qu'il est quand même nécessaire de sensibiliser les entreprises pour venir prendre connaissance de toutes les dispositions qui existent.
Tout à fait. C'est effectivement essentiel de les sensibiliser, de les informer. Alors la plupart sont quand même sensibilisées à la problématique thermique, mais elles n'ont pas forcément le temps ni les moyens de franchir le pas, d'aller au-delà. Là, le salon, c'est vraiment une façon de leur simplifier la tâche en leur mettant sur place, à demeure, l'ensemble des solutions qu'elles pourraient trouver par elles-mêmes, mais qui leur prendraient beaucoup plus de temps. Voilà, là, c'est vraiment une façon de leur simplifier la tâche. Et puis, c'est une façon d'accompagner les entreprises de notre secteur.
Bien sûr, oui.
Sur cette thématique-là.
Alors, c'est toujours pareil. Il y a les entreprises qui vont être complètement conscientes. Vous nous citiez le cas d'un industriel qui calcule le kilo de et puis il y a les autres entreprises qui au fond se disent je suis pas concernée.
Il y en a certaines, effectivement, qui pensent ne pas être concernées. Et il y en a qui sont effectivement pas concernées, hein. Enfin, pas concernées d'un point de vue économique et d'un point de vue réglementaire, mais qui le sont de toute façon d'un point de vue environnemental.
Oui.
Parce que le bâtiment est un secteur qui a un impact très important sur les émissions de gaz à effet de serre. Donc toutes les entreprises, à partir du moment où elles sont propriétaires de bâtiments, sont impactées, sont concernées par cette problématique-là.
Oui, David Buffaut, vous voulez intervenir.
Oui, est-ce qu'il y aura une captation vidéo de certains éléments de cette journée pour les mettre à disposition et élargir un peu l'audience?
Alors, j'ai pas prévu, c'est pas prévu en fait de prendre une vidéo. On pourrait le faire éventuellement, effectivement, de manière assez simple avec un smartphone.
Oui.
En tout cas, j'ai demandé à tous les intervenants de me transmettre une synthèse de leur conférence pour pouvoir éventuellement effectivement les rediffuser après par la suite. Ouais.
Emmanuel Froideval, une dernière question. Alors, je rappelle que ce salon aura lieu donc demain, 24 mai. Je vais redonner l'adresse. Donc, c'est 6 rue du Chemin Vert de Boissy à Taverny, de 14h à 20h. Ouvert une ouverture gracieuse, enfin tout le monde peut y accéder. Il faut quand même s'inscrire en allant sur quel site pour s'inscrire?
Valparisis.fr.
Très bien. Donc voilà, des
sur la première page, vous retrouverez en fait le salon des énergies positives et
voilà, des informations qui se retrouveront toute façon sur le podcast. Et alors, avant d'enchaîner avec David Buffaut dans quelques minutes, vous vouliez parler, il m'a semblé que c'était une bonne transition, vous vouliez qu'on parle de la loi, alors ZAN, comment dit-on?
Oui, la loi ZAN, zéro donc, artificialisation nette.
C'est ça. Ouais.
Parce que en 2050, le gouvernement a prévu d'interdire toute artificialisation supplémentaire. Donc, dans les années à venir, elle va être réduite. Donc,
qu'on appelle artificialisation supplémentaire?
Eh bien, on ne pourra plus construire des bâtiments sur des terrains qui n'auront pas été construits préalablement.
Très bien.
Donc, on va plutôt d'ailleurs dans un sens inverse, en essayant de renaturer des terrains qui ont été construits. Donc, ce qui impacte énormément en fait la construction de zones d'activité nouvelles et qui pose un peu un souci. On sort un petit peu en fait de la partie transition écologique,
oui,
mais
oui.
Disons que.
Il y a un lien quand même.
Il y a quand même un lien, effectivement. Mais ce que je constate.
On est toujours dans l'urgence climatique, en tout cas.
On est toujours, effectivement. Mais ce que je constate au quotidien, c'est que bien souvent, les entreprises cherchent des terrains, et qu'elles n'ont plus la possibilité, sur certains périmètres, en tout cas, le foncier est devenu très rare, et il n'y a plus de foncier pour pouvoir construire. Donc, la loi ZAN va plutôt accélérer ce mouvement-là, va l'accentuer plutôt qu'autre chose, et il va falloir trouver des solutions. Donc, une des solutions, pour nous en tout cas, c'est d'aller voir les entreprises, de les connaître, voir si effectivement ils ont des terrains qu'on peut densifier davantage et de les accompagner dans la restructuration, la rénovation des bâtiments. Je pense que c'est une des solutions en tout cas qu'on peut apporter vis-à-vis de cette loi ZAN, qui est une très bonne loi par ailleurs.
Oui, absolument, on a bien compris. Je me posais la question, la FFB va peut-être participer à ce salon?
J'aurais bien aimé, mais j'ai pas eu le temps.
Ça
prend beaucoup de temps d'aller contacter tous les intervenants, de leur expliquer, les informer, leur demander, les solliciter. Ça, et j'ai pas eu l'occasion en fait de le faire avec la FFB, mais une prochaine fois.
D'où l'importance de vous appuyer aussi sur la CCI la prochaine fois.
Tout à fait, et sur la Chambre des Métiers également.
Très bien. Ouais. Merci Emmanuel Froideval pour ce panorama détaillé. Alors bien évidemment, votre conseil c'est de venir à ce salon. Hein,
exactement. Ouais. Venez nombreux, surtout venez, n'hésitez pas à venir.
Merci pour ce panorama très détaillé de votre mission et puis de celle de la communauté d'agglomération de Valparaisis. Nouvelle pause avant de retrouver mon troisième invité, David Buffaut. À tout de suite.
You wrap me in your arms, you never stop. Heartbeat so loud.
France, vous écoutez IDFM, la plus francilienne des radios.
Dernière partie de cette émission, l'économie en direct sur IDFM Radio, consacrée au développement durable et à la transition énergétique, avec toujours à mes côtés Stéphane Beaupère, ingénieur conseiller en développement industriel à la Chambre de commerce et d'industrie Paris-Île-de-France, Emmanuel Froideval, chargé de l'immobilier d'entreprise pour la communauté d'agglomération Valparaisis, David Buffaut, hypnothérapeute, conseiller municipal à Enghien-les-Bains, liste Enghien en transition, cofondateur de l'association Semeur de Forêt. David Buffaut, merci d'être à nos côtés ce matin. David Buffaut, qui êtes-vous ?
Oula. comme vous l'avez dit, moi je suis hypnothérapeute, donc ça c'est mon activité professionnelle. Et au-delà de ça, j'ai un engagement en faveur de la protection de l'environnement. Étant donné que il y a 4 ans maintenant, on a créé avec mon épouse l'association Semeur de Forêt, dont le but est d'acheter des terrains pour y recréer des espaces de biodiversité. Donc on organise des plantations d'arbres dessus et l'idée c'est que ça redevienne des forêts de plusieurs dizaines d'essences dessus. On est parti d'un constat il y a un bout de temps, un constat que tout le monde partage, hein, qu'il y a un
effondrement
de la biodiversité, un réchauffement, un dérèglement climatique qui nous arrive dessus d'une violence assez inouïe. Et ça nous créait beaucoup d'anxiété. On se demandait ce qu'on pouvait faire, nous, à notre niveau, pour le faire, notamment vis-à-vis de nos enfants, vu que j'ai 2 enfants. Et ce qu'on s'est dit, ce qui nous a paru abordable à ce moment-là, il y a eu des déclencheurs par rapport à ça. La démission de Nicolas Hulot à la radio en direct, ça nous a beaucoup choqués. On s'est dit, peut-être qu'il faut faire les choses plutôt que d'attendre que tout nous tombe tout cuit. Donc, et là, on s'est posé la question, qu'est-ce que concrètement on peut faire ? Donc, on s'est dit que planter des arbres, c'était sans doute une bonne idée au niveau de la biodiversité et de la captation carbone. Mais on voulait le faire bien, c'est-à-dire qu'on voulait pas faire planter des arbres qui soient coupés dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, pour... agrandir la médiathèque ou l'école, enfin pour des projets qui ont du sens, mais bon, ça serait dommage. Et on voulait aussi recréer des forêts qui soient des vrais écosystèmes, contrairement à ce qu'on voit un petit peu partout, des monocultures. Donc une vraie forêt, c'est pas une châtaigneraie, c'est pas une pinède, c'est pas une chênaie, c'est pas une hêtraie.
C'est un mélange de toutes les essences.
Il y a des centaines d'essences en fait. Au même endroit, il y a des arbres de haute canopée, et puis il y a tout un sous-bois, il y a de la vie en fait. Et c'est ça qu'on aimerait recréer.
Parce que là où il y a un paradoxe, c'est que la surface couverte d'arbres progresse en France, mais les vraies forêts disparaissent.
En France, il y a eu une période, c'était il me semble vers le 18e siècle, où il y avait presque plus de forêts en France. Donc la majeure partie des forêts françaises sont des plantations, sont des forêts qui ont été plantées. Et ça a été planté par des personnes qui avaient des visées économiques, c'est normal, ont fait en fonction de la demande de l'époque.
Les visées économiques, c'est faire pousser des arbres pour ensuite les couper tirer un bénéfice.
C'est pour le bois de construction, construire des bateaux, pour construire des meubles, voilà.
Bien sûr.
Donc c'est tout à fait utile. Parce que le bois, c'est aujourd'hui une ressource qui est difficilement remplaçable, mais la conséquence, ça a été qu'on a on a presque 94% des forêts françaises où il y a moins de 4 essences dedans. Ça, c'est des chiffres de l'ONF. Donc ça fait une très grande pauvreté. Et pour la biodiversité, s'il y a peu d'arbres différents, il y a peu d'insectes différents, il y a peu d'oiseaux, parce que une fois que votre arbre, par exemple, il a fleuri, il n'y a plus de fleurs, s'il n'y a pas un arbre qui prend le relais,
il n'y aura plus d'insectes, plus d'oiseaux.
Très vite, la biodiversité s'effondre. Et l'autre problème, c'est que quand on a des arbres d'une même essence, dès qu'il y a un parasite qui vient ou une maladie, puis souvent c'est en plus des clones, tout y passe.
Tout y passe, oui, vous avez raison. C'est le cas d'ailleurs dans notre région en ce moment avec les tuyas, qui souffrent énormément.
C'est le cas de presque toutes les plantations. On a à Enghien-les-Bains, on est à côté de la forêt de Montmorency, où il y a les châtaigniers
qui sont en
train d'être malades et qui nécessitent du coup des coupes rases pour essayer d'endiguer. Mais alors forcément, quand on arrive, on voit sur 2 hectares, il n'y a plus rien.
C'est choquant, mais c'est pour essayer d'endiguer un problème. Et on paye aussi aujourd'hui les choix d'il y a 50 ans.
Qui ont été faits, oui. D'où on en revient au thème de l'émission, vraiment sensibiliser les gens, parce qu'au fond, Emmanuel et Stéphane, vous allez peut-être me dire si j'ai raison, mais ce qu'on fait aujourd'hui, c'est pour les générations futures, hein, c'est pas forcément pour nos propres besoins aujourd'hui.
Moi, j'irais même un peu plus loin, c'est que déjà, on a un intérêt à le faire tout de suite.
Oui,
il y a un intérêt immédiat et il y a un impératif à long terme.
Si
on ne le fait pas aujourd'hui, déjà, on perd cet intérêt, ne serait-ce qu'économique. Hein, réduire sa facture d'électricité, ça profite tout de suite.
C'est sûr.
Et derrière, après, effectivement, avoir une visée de transformation écologique de son modèle de fonctionnement, ça va aller sur le long terme. Du long terme, pour les générations d'après.
Futur.
Peut-être, enfin, on a vu quand même que la dégradation climatique s'était vraiment accélérée ces dernières années, cette année notamment. Je pense que tout le monde aujourd'hui sent cet impératif et se doit d'agir aujourd'hui pour en tirer des bénéfices immédiats et
pour préserver les générations futures.
Voilà.
Merci Stéphane Beaupère. David Buffo, il y a un mot que j'aime bien, c'est sanctuariser.
Oui, alors c'est donc comme je disais, nous on veut recréer des écosystèmes et il faut que, enfin, le rythme de la nature, il est lent. Un arbre,
absolument,
ça pousse pas très vite, même si on tire sur le tronc. Hein. Donc ça va être vraiment une échelle de temps qu'on peut même pas concevoir. Vous voyez, il y a Francis Allais qui a un projet de faire une forêt primaire. C'est un projet sur plusieurs centaines d'années, peut-être 1000 ans. Ils veulent partir de forêts déjà existantes, donc ça réduit à 700 ans. Mais bon, vous voyez. Voilà. Donc ce qu'on s'est dit, c'est que il faut laisser le temps aux choses de se faire. Il y a une dynamique que nous on peut lancer, mais il faut être très humble par rapport à ça.
Complètement.
Et dans ce qu'on va planter, il y a des choses qui vont très bien s'épanouir, et puis il y en a d'autres qui vont un peu péricliter, et puis c'est pas grave. Parce que la nature va prendre sa place dessus si on lui laisse le temps. Et c'est pour ça qu'on achète les terrains, pour que y ait pas cette pression-là, qu'il n'y ait pas de risque supplémentaire dessus d'un propriétaire qui change d'avis, d'une mairie ou d'une entreprise qui a d'autres priorités tout d'un coup. L'idée, c'est vraiment de se dire, cet endroit-là, ça sera, c'est un endroit qu'on achète, on se fait un peu les intermédiaires pour la nature d'une certaine manière, pour dire on rachète pour eux et puis nous on n'y va plus après. Voilà, c'est pas pour faire des jardins. On nous demande souvent, est-ce que vous pouvez nous aider à faire une forêt nourricière, par exemple, planter que des arbres fruitiers ou des choses comme ça, et ça va pas tellement
pas
dans notre philosophie parce que ça sera encore
pour nous,
vous voyez, pour qu'on l'utilise.
Je comprends.
Et là, l'idée, c'est de redonner, de laisser tranquille. On n'a pas vocation à fouler chaque centimètre carré de la terre.
Alors donc, vous avez fait le choix d'acquérir ces terrains au nom de l'association. La pérennité de ces terrains, c'est la pérennité de l'association, forcément.
Pas uniquement. Donc,
vous avez mis en place
que l'association dure le plus longtemps possible, bien sûr. Il y a des associations qui vivent depuis, je sais pas, 150 ans, tout ça. Donc,
IDFM Radio existe depuis 40 ans.
Voilà. Donc, on espère bien ça. Mais c'est vrai que, je parlais de la durée de vie d'un arbre. Il faut rester hyper humble par rapport à ça. Donc, ce qu'on a fait dès le départ, on s'était posé cette question, comment assurer cette sanctuarisation.
Oui,
et ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis dans nos statuts que si l'association venait à être dissoute, on devait faire don des terrains à une association qui a des visées similaires.
Qui prendrait le relais.
Et donc, on verra à ce moment-là quand la
question
se posera.
On n'y est pas encore, mais en tout cas, vous y avez réfléchi. En tout cas.
C'est dès le départ, dans les statuts, vraiment dès la création qu'on avait mis ça.
Bien sûr. Alors, acheter des forêts, ça doit coûter cher. Comment faites-vous?
Alors, on n'achète pas des forêts, nous, on achète des terrains.
Pardon, excusez-moi.
En général, il n'y a pas d'arbres dessus.
Oui.
Mais effectivement, ça a un coût. Et puis, les plantations aussi, ça a un coût. Donc, aujourd'hui, on se finance, il y a plusieurs leviers. Le principal, c'est du crowdfunding, donc du financement participatif, des particuliers qui nous donnent de 3 euros à parfois plusieurs milliers d'euros. Donc, on a toute une strate de donateurs, et d'adhérents. On a ensuite des outils qui existent aujourd'hui, donc par exemple des moteurs de recherche qui permettent de financer des associations avec ces recherches. Je pense à l'ILO,
On a des entreprises qui font des cartes cadeaux, par exemple, comme Captain Cause pour des entreprises. Donc, au lieu d'offrir des stylos avec le logo de l'entreprise, vous offrez des dons qui sont préfinancés. Et du coup, ça nous permet de nous financer aussi par là. Et on a des entreprises qui nous financent aussi directement. On est rentré dans le réseau One Person for the Planet. Et il y a des entreprises où souvent, c'est des petites entreprises, on va dire, en tout cas, ou qui démarrent, avec des personnes qui ont des fortes convictions au niveau des dirigeants et qui souhaitent donner du sens à ce qu'ils font. Vous avez reçu Lionel Cossignac, comme la nature. On a en historique, on a Ameline Calendrier, ils sont près des Sables d'Olonne. On a récemment Small Conseil, on a Tekoya, on a beaucoup de petites entreprises.
Oui, c'est un mouvement
c'est des petits ruisseaux, à chaque fois.
Quand même qui plaît et qui on se sent responsabilisé aussi vis-à-vis des arbres.
C'est un petit peu ça et en tout cas nous on a décidé en faisant ça parce que tout est bénévole, tout le monde est bénévole dans l'association, de prendre nos responsabilités et de se dire on peut faire quelque chose, donc en tout cas ce qu'on peut faire, faisons-le.
Oui, c'est ça. J'ai relevé en préparant le dossier la méthode Miyawaki. Mot sur cette méthode.
Miyawaki, Akira Miyawaki, c'est un botaniste japonais qui est aujourd'hui décédé. Il est décédé récemment et qui a créé une méthode de reboisement qui permet principalement de renaturer des endroits qui ont été fortement dégradés, donc des sols urbains principalement. Cette méthode, elle est basée sur un important travail du sol pour redonner des qualités au sol et puis une plantation de plein d'essences différentes. Donc ça, c'est ce qu'on fait avec une forte densité. Dans les plantations Miyawaki, on plante jusqu'à 3 arbres par mètre carré. C'est quelque chose dont on s'est inspiré. On est parti de ça au départ. Et souvent, ce qui se passe, c'est que c'est sur des petites surfaces. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est... Et puis, on est bénévole. On a des surfaces de plus de 1 hectare.
Oui.
Donc, 1 hectare, ça fait 10 000 mètres carrés. Donc, vous voyez, si vous faites 3 arbres au mètre carré, ça vous en fait 30 000. Et puis, vous multipliez en fonction de la surface. Donc, très vite, on s'est rendu compte qu'avec nos petites bras, ça allait être compliqué de faire ça. Et que peut-être que la nature faisait les choses aussi
mieux
bien
que vous.
voire mieux, exactement.
Oui.
Donc aujourd'hui, on a conservé les plantations en gardant le choix des espèces, donc une grande diversité. On a écarté les arbres les uns des autres dans ce qu'on fait. Et puis ce qu'on s'est dit, c'est qu'on n'était pas forcément très très pressé. On pouvait laisser le temps aux choses de faire, du fait justement qu'on achète les terrains et que c'est pas...
Il n'y a pas d'urgence à...
Oui, et puis c'est pas un projet... Vous voyez, il y a beaucoup de projets qui sont faits par des équipes municipales, par exemple, qui appellent des associations pour venir planter. Et là, il faut quand même qu'il y ait quelque chose de visible avant la fin du mandat.
C'est ça, oui.
Pour qu'on puisse valoriser, ce que je comprends tout à fait. Mais du coup, ça devient une contrainte. Alors que nous, on s'est dit, ne mettons pas cette contrainte.
Ça devient une course à l'échalote un petit peu.
Et puis au nombre d'arbres plantés. Tout le monde veut dire, moi j'ai planté tant de milliers d'arbres.
C'est ça.
Alors que nous, sur nos terrains, il y a énormément d'arbres qu'on n'a pas plantés, qui se plantent naturellement, les oiseaux amènent les graines.
Qui viennent, ça se fait. Est-ce qu'on peut avoir une idée du coût d'un terrain pour alors vous allez me dire ça dépend de la région du prix du mètre carré mais une moyenne.
En moyenne, nous aujourd'hui on a quatre projets qu'on a menés à terme qui sont en cours dans l'Eure, l'Oise, la Vienne et les Deux-Sèvres et on en est à 16 hectares aujourd'hui. On peut donner une moyenne que un projet complet c'est environ 50 000 euros.
D'accord.
Environ entre le prix d'achat, mais c'est vraiment très très variable en fonction des régions.
Oui, bien sûr,
parce que
bien sûr.
Dans l'Oise, c'est bien plus cher que dans la Vienne, par exemple.
Ou que la Creuse.
Bien sûr. Mais à peu près une cinquantaine de milliers d'euros qu'il faut trouver à chaque fois.
Bon, mais que vous avez trouvé jusqu'à
présent.
Qu'on
a trouvé, et puis là, on est encore sur. On a plusieurs projets. On a un projet qui a bien avancé. Avec un propriétaire donc avec qui on va faire un contrat, donc ça c'est une loi de 2016 qui nous permet de créer un contrat d'obligation réelle environnementale qui donne des obligations vis-à-vis, donc en co-contactant il y a un propriétaire plus notre association et qui protégerait ce qui a été fait pendant 99 ans.
Très bien, il y a un contrat amphithéotique.
Exactement, c'est même déposé au bureau des hypothèques, donc la personne reste propriétaire de son terrain. Mais du coup, il y a cette contrainte que si on est venu planter des arbres, qu'on a financé tout ça, ça doit rester au moins 100 ans dessus. Quoi.
Très bien. Je voudrais dire un mot. C'est votre épouse, Florence Massin. Oui. Elle a écrit un livre, Semeur de forêt, créer des forêts sanctuaires, qui est disponible dans toutes les bonnes librairies. Son éditeur, son prix.
Alors, il est édité aux éditions Erol. Le prix, il me semble que c'est 24 euros.
D'accord.
Et c'est un livre qui est un peu construit comme un guide pour permettre de reproduire en fait ce qu'on a fait. C'est un retour d'expérience sur il y a toutes les erreurs qu'on a fait.
Quand vous avez démarré,
sûr. Donc autant ne pas les refaire. Il n'y a eu aucune erreur vraiment compliquée, mais bon, autant se faciliter la tâche en profitant des expériences des autres. Et elle a essayé à travers cet ouvrage de faciliter en fait la chose aux personnes, parce que un des buts de l'association, c'est que tout le monde s'y mette. C'était aussi de montrer, parce que ça je l'ai pas dit, mais nous à la base on a aucune connaissance particulière du monde de la
forêt. C'est vraiment né d'une bonne volonté.
On s'est dit après tout on n'est pas plus bête que d'autres et on a deux bras et on devrait pouvoir y arriver. Et puis on y est arrivé. Donc si on l'a fait, tout le monde
à mon avis
peut le faire. Faut une bonne volonté, faut un peu d'organisation et puis d'énergie. Et c'est faisable. Et aujourd'hui, on est là aussi pour accompagner des gens. Donc si vous avez envie de faire le même projet,
absolument,
que vous ne savez pas par quel bout le prendre, vous nous contactez, on se met en relation et puis on peut vous accompagner là-dessus.
Très bien. Écoutez, en tout cas, bravo pour ce projet magnifique.
Merci beaucoup.
Je pense que vous approuvez, Stéphane et Emmanuel, à cette belle innovation.
C'est très courageux et puis ça doit prendre beaucoup de temps à faire. Donc bravo et merci pour nous.
C'est un temps infini, on pourrait dire.
Merci David Buffaut pour votre engagement puis tous ces éclairages destinés à sauver notre planète tant qu'il est encore temps. La loi ZAN, elle vous plaît bien donc?
Oui, alors moi je trouve que c'est absolument indispensable de faire ça, parce que je ne sais plus les chiffres, mais je crois qu'on perdait un département en fait en artificialisation tous les 10 ans, je crois que c'était quelque chose comme ça.
C'est cet ordre-là.
Là, il est temps d'arrêter les dégâts. Nous, on n'est pas sur la désartificialisation, parce que là où on va planter, en général, c'est des terrains qui sont naturels, c'est des sols qui sont vivants, mais souvent c'était avant des pâtures ou des choses comme ça. Mais c'est absolument
important
de faire ça.
Très bien.
Et ce que je voulais ajouter, c'est que tous les auditeurs qui souhaitent nous soutenir peuvent le faire en allant sur notre site internet. Et puis il y a un bouton pour savoir comment adhérer, comment nous faire un don, et puis tout simplement nous suivre aussi sur les réseaux sociaux pour savoir quand on a besoin de bénévoles sur les terrains pour entretenir, pour planter. Et là, par exemple, vendredi, je vous disais que ça prenait du temps. J'ai passé ma journée sur le terrain pour faire du désherbage.
Ah bah oui. Donc, parce qu'il faut entretenir.
Départ, parce que c'est pas tout de planter.
Non.
Faut que ça puisse pousser.
Mm-hmm,
Il y a quelques années des millions d'arbres plantés en Turquie, par exemple, et puis un an après, ils étaient tous morts.
Bien sûr. Oui, ça demande de l'entretien. Merci en tout cas, David Buffaut, de nous avoir sensibilisé. Donc votre site, c'est semeurdeforêt.fr.
.org.
Très bien.
Avec un S à semeur et à forêt.
Très bien. Voilà, l'émission, c'est la fin de l'émission, mais je vous redonne la parole à chacun pour une minute de conclusion et je crois que vous vous êtes bien trouvés tous les trois. Moi, je suis ravie en tout cas des transitions qui se sont faites. Stéphane Beaupère.
Vous nous avez bien réunis, les choses comme ça. Non, moi, je trouve, on est dans une urgence climatique et je pense qu'on a le bon état d'esprit en fait pour avancer. On le voit à travers les actions qu'on peut mener de façon un peu institutionnelle, la volonté de l'État. On parlait de la ZAD, et effectivement, ça va dans le bon sens. Semeur de forêt, qui manifeste en fait la mobilisation citoyenne qui est essentielle en fait pour faire face à ces enjeux. Et je trouve que le climat est plutôt réjouissant malgré la menace. Et ça motive à me lever tous les matins.
Merci Stéphane Beaupère. Emmanuel Froideval.
Pas de la même manière. Je trouve qu'il y a énormément d'initiatives de ce type-là qui se propagent et qui sont pas toujours au niveau finalement de de l'urgence climatique, mais finalement, il y a quand même une véritable dynamique qui s'est inscrite et qui continue et qui augure de choses très positives pour l'avenir, contrairement à tout ce qu'on entend en permanence.
Oui, oui, oui.
Je voudrais juste rajouter ce que j'ai oublié de le faire à 18h30 demain à l'occasion du salon. Notre président, le président donc Yannick Bouedec, le président de l'agglomération Valparaisis, fera une allocution avant la restitution, le retour d'expérience des prédiagnostics. Voilà. Et dans la suite, il y aura Michel Jonquer aussi du MEVO qui fera une allocution.
Voilà,
Michel. Merci beaucoup.
Je vous en prie, merci à vous, Michel Jonquer, que nous connaissons bien aussi. Je rappelle donc salon du 24 mai demain. Théâtre Madeleine Renaud, 6 rue du chemin vert de Boissy à Taverny, de 14h à 20h. Et vous, Stéphane, c'est le 15 juin à la Turbine, toute la journée de Sergi.
Oui. Alors ça, normalement, c'est la matinée, mais on sera
c'est la
là,
matinée,
on sera
oui, je pense que ça va déborder. Très bien, merci infiniment. David Buffo, un mot de conclusion.
Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est d'encourager les gens à sortir de la résignation, de se dire, bon, bah, de toute façon, on va pas y arriver, ou d'attendre que ça soit d'autres qui règlent le problème. On n'en a pas beaucoup parlé, mais je suis aussi conseiller municipal,
oui,
donc il y a
oui.
plein de moyens de s'engager et de faire bouger les choses à son niveau. Et ce qu'il faut, on s'en sortira si tout le monde fait ce qu'il peut faire.
Absolument.
Donc, quelle est la prochaine étape pour chacun? Qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui? Est-ce que c'est rejoindre le semeur de forêt? Est-ce que c'est créer votre propre association? Est-ce que c'est rentrer au conseil municipal ou en politique? Mais il y a beaucoup de choses à faire et on peut les faire, en fait. Donc, faut pas avoir peur, faut se lancer, puis vous apprendrez au fur et à mesure.
Ne pas rester dans son coin et aller surtout pas. Merci infiniment. Et donc, je rappelle aussi le livre de Florence Massin, Semeur de forêt, créer des forêts sanctuaires pour avoir le guide.
Voilà.
Un guide pour faire, si on a envie, une association. Merci infiniment, en tout cas, à tous les trois pour ce beau sujet. À 11h, retrouvez l'émission Balade musicale avec Christophe Graveau. Merci Francky pour la technique. Merci à vous toutes et tous, auditrices et auditeurs, pour votre fidélité comme à chaque émission. Cette émission vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Retrouvez son podcast comme bon vous semble sur le site idfmradio.fr. Vendredi prochain, encore et toujours des invités à partir de 9h30. Alors rendez-vous ce jour-là. D'ici là, belle journée, belle semaine. Prenez grand soin de vous et de vos proches.
En Île-de-France, vous écoutez IDFM, la plus francilienne des radios.